5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Philippe.
Allez, continuons avec cette théorie de la tragédie des communs, théorie d'un biologiste en 1968, Garrett Hardin, qui pond quelque chose et il va y avoir des prolongements totalement inattendus.
Oui, alors au départ, il prend un exemple, donc il est biologiste et il prend un exemple, il dit « si vous laissez un libre accès à un champ communal à plusieurs éleveurs, chacun va faire en sorte de faire brouter un maximum de vaches sur ce champ communal pour ne pas avoir à acheter de foin, il va chercher le meilleur rendement et donc au bout du compte, la prairie ne va pas supporter cette pression, la prairie va péricliter et finalement c'est l'ensemble des éleveurs qui vont en souffrir. » Donc il en tire la conclusion que face à un bien commun, eh bien on va toujours avoir des comportements d'appropriation, des comportements de rivalité qui derrière vont mettre en péril le bien commun. Et il prend d'autres exemples historiques comme l'île de Pâques et la disparition donc du bois à l'île de Pâques. Et pour arriver à cette conclusion, qu'il y a deux solutions possibles uniquement face au bien commun, c'est soit on les privatise et on laisse la libre entreprise, donc on établit un droit de propriété et après on laisse le marché fonctionner.
La fameuse main invisible qui va tout arranger, tout gérer.
Voilà, qui va permettre donc à chacun de poursuivre son intérêt individuel tout en assurant la poursuite de l'intérêt collectif. C'est l'idée effectivement de la main invisible d'Adam Smith. Et puis la deuxième chose, c'est la gestion par les pouvoirs publics, donc par une force extérieure, via les nationalisations.
Et
là,
la loi.
Là, ça renvoie au contexte quand même dans lequel Garrett Hardin a écrit. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis de l'entre-deux-guerres, en particulier des années 20, a connu une énorme sécheresse, une surexploitation des terres qui a abouti effectivement à la mise en danger de la survie puisqu'il y a une grande famine. Donc il y a le Dust Bowl, c'est une érosion des plaines américaines à l'échelle des États-Unis qui, à la fin des années 20, donc, va venir en parallèle de la crise financière et va l'aggraver, qu'on relise les raisins de la colère de Steinbeck pour bien voir effectivement qu'il n'y avait pas qu'une crise financière, il y avait aussi un gros problème pour nourrir la population américaine. Et la solution du New Deal américain, ça a été de nationaliser les terres. Ça a été de nationaliser les terres et de dire les agriculteurs seuls ne sont pas capables de gérer ce bien commun. Et c'est donc une appropriation par l'État, une gestion par l'État fédéral, des terres américaines qui a permis de relancer.
Pour remettre en place des bonnes pratiques, puis ensuite il y a eu un certain nombre de directives prises qui liaient les subventions agricoles à des critères de conservation. Enfin bon, voilà, tout ça pour remettre les choses dans le bon sens.
Oui, et donc Hardin, il écrit dans ce contexte-là, il prend position pour la nationalisation des terres américaines. Ce qu'on a découvert en creusant un petit peu, c'est que le contexte dans lequel écrit Hardin, c'est aussi un contexte où il y a une croissance démographique, donc il écrit dans les années 60, de la démographie mondiale qui fait peur à l'époque. On pense qu'on ne va pas arriver à nourrir tout le monde dans un monde fini, c'est une des idées fortes des années 60. C'est aussi le contexte de la guerre froide et de l'idée d'appropriation des terres par les deux blocs géopolitiques qui s'affrontent. Et tout ça donc amène une théorie dans laquelle soit on privatise, soit on nationalise, mais avec derrière des idées d'eugénisme.
Oui, ce qui fait le paysage mental de Garrett Hardin n'est pas du tout à passer sous silence, malgré tout. Donc dans ce contexte géopolitique, on a quand même une personne qui croit à l'eugénisme. Voilà, il faut limiter les naissances, il faut faire une sélection. C'est l'immigration choisie, c'est la remise en cause de l'État providence, parce que l'État-providence permet aux pauvres de survivre et dans un contexte de démographie galopante avec l'émergence de la notion de ressources finies, là on a un néo-malthusianisme, et puis de la gestion des ressources au niveau mondial.
La tragédie des communs a servi ensuite de référence structurante dans les débats sur la politique et la gouvernance des ressources dans les années 70, 80 et jusqu'aux années 2000, et pour des courants de pensée qui sont a priori pas frère et pas parallèle.
Et oui, on se rend compte même ici en France que une grosse partie de la pensée des écologistes va être structurée à partir des conclusions de Garrett Hardin et de cette théorie de la tragédie des communs.
Oui, donc d'un côté, on va faire un appel à la gestion publique des ressources et des biens communs. Il faut protéger la biodiversité, il faut protéger l'eau, etc. en tant que bien commun par une gestion publique. Et puis de l'autre côté, cette tragédie des communs sert de base et de fondement à la la pensée néolibérale actuelle, où l'idée qu'il faut tout privatiser et tout rendre géré par le marché, parce que c'est la seule solution pour pouvoir avoir une gestion correcte. Et donc, ça va déboucher très concrètement sur les délégations de services publics que l'on connaît pour la gestion de l'eau ou pour la gestion des biens communs dont on a tous besoin.
Voilà, on est au début des années 70. D'un côté, c'est le Club de Rome qui sort son premier rapport avec les premières préoccupations écologiques. Et de notre côté, ce sont les théories néolibérales qui commencent de s'ancrer dans le monde occidental. Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.